gagnante du Quintet Plus, 4, 17, 8, 11 et 9. 4, 17, 8, 11 et 9. Je vous rappelle que le 7 était non partant. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 16 octobre 1978, il y a 25 ans, jour pour jour, Karol Wojtyla devenait Jean-Paul II.
Cette fois, c'est indiscutable, la fumée est tout à fait blanche, il n'y a pas eu un atome de fumée noire. Nous avons donc un pape, nous allons maintenant attendre environ une dizaine de minutes, et puis nous verrons le pape, le nouveau pape.
Ans d'histoire. Il y a 25 ans, jour pour jour, le 16 octobre 1978 à 18h20, la foule massée sur la place Saint-Pierre de Rome voit s'échapper de la cheminée de la chapelle Sixtine la fumée blanche qui, selon la tradition, annonce l'élection d'un nouveau pape. Mais pendant 25 minutes encore, personne ne connaîtra son nom. Depuis que les cardinaux du conclave se sont enfermés deux jours plus tôt, derrière les portes verrouillées de la chapelle Sixtine, les spéculations vont bon train, mais aucun des journalistes présents à Rome ce jour-là ne sait qui sera le 263e successeur de Saint-Pierre. À 18h45 enfin, le cardinal Felici apparaît sur le balcon du Vatican, et après la formule rituelle prononcée en latin « Nous avons un pape », il donne le nom de celui qui allait régner désormais sur 800 millions de catholiques.
Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła.
Bernard Lecomte, bonjour.
Bonjour.
C'est ainsi qu'il y a 25 ans tout juste, donc, commençait un des règnes les plus longs de l'histoire du Vatican, puisque trois papes seulement ont régné plus longtemps que Karol Wojtyla, qui devenait ce jour-là Jean-Paul II, mais ça, personne ne pouvait encore le savoir en 78. La grande surprise, en revanche, c'est que c'était un pape polonais. Ça, on n'avait pas vu un pape non-italien régner depuis plus de 450 ans, je crois.
Oui, c'est vrai, et c'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose, car la surprise, c'était qu'il n'était pas italien.
Oui.
C'est un peu après qu'on va se dire, mais un, il est polonais et slave, et deux, il vient d'au-delà du rideau de fer. C'est avec un certain temps que les commentateurs vont avoir cette conscience que, au fond, c'est pas seulement un non-italien, mais c'est quelqu'un qui vient des pays de l'Est.
Vous-même, ça a provoqué un choc d'autant plus grand que je crois que vous étiez ce jour-là à Varsovie.
Oui, moi j'étais tout jeune journaliste et envoyé spécial de la Croix, et pour tout à fait autre chose, j'étais en effet à Varsovie ce jour-là, et j'étais avec un officiel polonais, un bon communiste montain, qui est devenu tout pâle quand un de ses sbires lui a tendu un petit papier en disant « Fifié, c'est un pape polonais », et il s'est tourné vers nous, il a dit « Voilà, c'est un polonais », tout le monde a dit « Ah bon, c'est Wyszynski », car rappelez-vous, à l'époque, le primat Wyszynski était très très connu. « Non, c'est pas Wyszynski, c'est Wojtyła », et moi j'ai pris par la main mon interprète et je lui dis on file tout de suite dans la rue et je me suis payé ce luxe d'apprendre aux Polonais que je rencontrais que le pape était polonais. Je les ai vus un par un fondre en larmes, pousser des cris, danser dans la rue, etc.
Alors ce pape, Bernard Lecomte, vous venez de lui consacrer une monumentale biographie publiée chez Gallimard, une biographie de 600 pages dans laquelle vous insistez, c'est passionnant parce que vous y insistez beaucoup, la moitié de ce livre est consacrée pratiquement à la jeunesse et à l'époque où Wojtyla était encore Wojtyla avant qu'il soit pape. Pourquoi avoir attaché tant d'importance aux 58 ans qui ont précédé son élection?
Parce que, si vous voulez, j'ai voulu dans cette biographie raconter non pas pas l'histoire d'un pape, mais l'histoire d'un homme. Si vous voulez, grosso modo, les papes, ils ont tous un petit peu la même histoire, c'est-à-dire qu'ils sont issus d'une famille catholique de 12 enfants, entrés au petit séminaire à 15 ans, au grand séminaire à 17 ans, puis prêtre, puis évêque, etc. Celui-là, pas du tout. Il a une vraie vie, si j'ose dire. Il n'entre au séminaire que à 21 ans passés. Il vient d'un pays, on y reviendra, qui a une histoire extrêmement dramatique et pleine d'enseignements, pour lui-même, pour la suite, et lui-même a une vie de petit garçon, puis d'adolescent, d'étudiant. Il veut être comédien, on a un peu oublié ça, mais il a failli ne pas être prêtre.
Il a joué dans le théâtre amateur.
Il a joué pendant des années, et il avait bien l'intention, il l'a dit encore en 1941, il dit à un de ses amis, mais moi prêtre, pas du tout, tout le monde pense que cet homme si pieux va devenir prêtre, il lui dit, moi prêtre, pas du tout, je veux être comédien, et j'ai déjà ma place au théâtre Słowacki pour l'après-guerre. Le théâtre Słowacki était le principal théâtre de Cracovie, et il avait bien l'intention de devenir acteur.
Acteur, philosophe aussi, quand même, docteur en philosophie, ouvrier, très sportif, on l'a appelé dans le surnommé le sportif de Dieu. C'est assez étonnant, vraiment, c'est un itinéraire qui est tout à fait surprenant. C'est peut-être aussi cette jeunesse, et puis ensuite les années qui vont suivre jusqu'en 1978, les années où au fond s'est forgé déjà ce qu'il allait faire en tant que pape. C'est un homme qui a beaucoup souffert aussi dans sa jeunesse. Il faut rappeler quand même qu'il a perdu, vous le rappelez, qu'il a perdu très tôt sa mère, il avait 9 ans, son frère il avait 13 ans, son père quand il avait 20 ans, et puis alors surtout la jeunesse de Wojtyla, c'est aussi les épreuves que subit son pays, hein, la guerre de 40, l'occupation de la Pologne où les Allemands ont construit les premiers camps d'extermination les plus terribles, une expérience qui l'a profondément marqué. Écoutez Jean-Paul II en parler devant des enfants en 1984.
Je pense à dire campi di concentramento, se si pensa di questa cosiddetta in ebraico Shoah, vuol dire
si l'on pense au camp de concentration, popolo, si l'on pense à ce qu'on appelle en hébreu la Shoah, l'extermination d'un peuple, j'ai certainement appris à travers ces souffrances à percevoir plus profondément la réalité du monde.
Attraverso il male che ha marcato tanto l'epoca.
À travers le mal qui a tellement marqué notre siècle. À travers ces souffrances immenses, ces tragédies, on a dû rechercher au plus profond une lumière.
Si è dovuto cercare più profondamente una luce.
C'est beau cette formule, Bernard Lecomte, au plus profond du malheur, rechercher la lumière.
Oui, le plus profond du malheur, c'était, hélas, hein, la triste vérité, on sait bien, tous les historiens le savent bien, la Pologne à cette époque, la Pologne occupée par les nazis, c'est un sixième de la population qui y passe. C'est des drames inouïs, et c'est la révélation à la fin de la guerre qui s'est passée. Dans ce contexte-là, la chose la plus épouvantable probablement de toute l'histoire de l'humanité, à savoir l'extermination de tout un peuple, la Shoah. Et on ne peut pas comprendre Jean-Paul II, tout ce qu'il a fait comme pape, si on n'a pas effectivement ce souvenir-là en tête.
Et notamment le pardon aux Juifs, hein, qu'il ira prononcer à Jérusalem en 2000. Alors le malheur aussi, ce sera après la guerre, le stalinisme dans un pays qui devient satellite de l'URSS et où la Pologne donc... où il est ordonné prêtre en Pologne en 1946, dans une église qui est, après tout, la seule forme d'opposition qui puisse rester face au régime communiste, Bernard Lecomte.
Oui, c'est même, au-delà même d'une opposition, parce que l'église n'est pas un parti politique, c'est même une contre-société, c'est quasiment la société civile qui se rassemble autour des sacristies, à l'époque, quand on veut se réunir, discuter, éditer un papier, quelque chose, un texte, c'est l'église qui abrite toutes les activités, j'allais dire, normales, d'une société normale. Et en effet, les cardinaux, les évêques de cette église sont rattrapés eux-mêmes par la politique. Wojtyła, au début, c'est pas du tout un homme politique. Il n'aime pas la politique. C'est un homme de prière, un homme de contemplation, un homme d'écriture, un homme de culture, mais c'est pas un homme politique. C'est la politique qui le rattrape, parce que dans un pays communiste, en effet, quand on est évêque puis cardinal, ben, on est obligé de se battre pour construire des églises, pour imposer une procession et pour empêcher que ses propres amis aillent régulièrement en prison purger leurs heures de confession.
Puis parmi eux aussi, justement, la personnalité quand même de ce cardinal Wyszyński, primat de Pologne, qui était vraiment un opposant au régime.
Ben, il a même payé de 3 ans de prison. Il faut imaginer ce que c'est dans un pays d'Europe dont la figure essentielle est ce primat, de voir tout d'un coup le gouvernement mettre le primat en prison pendant 3 ans.
Alors Bernard Lecomte, c'est dans cette Pologne, donc, où il devient prêtre en 46, qu'il devient ensuite évêque de Cracovie, je crois, en 1958. Il participe donc au Concile Vatican II.
Oui, de justesse. Il est un des plus jeunes évêques, et effectivement, à quelques mois près, il allait rater ça.
Un concile très réformateur. Quelle était son attitude à lui pendant ce concile?
Le concile a duré 3 ans, et au début, Wojtyła, c'est un jeune évêque qui n'a aucune espèce d'expérience et qui est complètement fasciné par ce qu'il voit. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des débats aussi vifs, il ne s'attendait pas à constater le rôle des théologiens, le rôle de la presse. C'est la première fois qu'il voit la presse s'emparer de choses secrètes, puisque quand même, le concile, les débats sont secrets. Et lui, il est complètement sidéré de voir le lendemain dans tous les journaux, cardinal machin a dit ça, l'évêque truc a répondu ça, etc. Donc il apprend beaucoup au concile, mais ça n'est qu'à la fin du concile, donc en 1965, que là il apparaît comme en effet celui qui sera un des évêques puis un des cardinaux de réflexion et un des proches de Paul VI. À la fin du concile, il a une importance très très grande sur la rédaction des textes principaux du concile.
Alors il est cardinal, vous l'avez dit, mais il est cardinal en 1967 et à ce titre donc il participera 11 ans plus tard au conclave de d'août 1978 quand il s'agit de désigner le successeur de Paul VI qui vient de mourir et qui est son prédécesseur à lui. Seulement Jean-Paul Ier, qui est élu en août 1978, va mourir 33 jours après. Jamais on a vu, c'est curieux quand on pense que Wojtyła a règne depuis 25 ans, c'est-à-dire un des plus longs règnes de l'histoire, son prédécesseur a régné 33 jours. On a même parlé d'un assassinat, Bernard Lecomte.
Oui, alors ça, il faut attention aux fantasmes quand on parle du Vatican. Il y a beaucoup de fadaises et de sornettes qui ont été dites là-dessus. En réalité, c'est tout à fait poignant et tragique ce qui s'est passé. C'est que le patriarche de Venise, Albino Luciani, qui a été élu pape, s'est rendu compte très vite qu'il était pas au niveau. Il a été... D'abord, il était en mauvaise santé, ce qu'on a oublié de dire à l'époque, hein, son dossier médical l'atteste, mais surtout, il a été complètement submergé par le stress et par son sentiment à lui d'incompétence. Et en effet, il s'est éteint, exténué, 33 jours après son élection.
Alors sa mort, évidemment, surprend tout le monde, à commencer par les cardinaux, qui se réunissent une deuxième fois en un mois et demi pour désigner un nouveau pape. Et alors là, 2 jours avant son élection, le conclave commence le 14 octobre, personne ne pense à Wojtyła. Vous racontez même, Bernard Lecomte, cette scène extraordinaire, assez drôle. Ce jour-là, au moment où on va fermer les portes de la chapelle Sixtine et où entrent les cardinaux, il y a un reporter photographe qui se dit, tiens, je vais faire la photo du futur pape. Donc il prend tous les cardinaux en photo. Et quand Wojtyła passe devant lui, il lui dit, non, ne me photographiez pas, c'est inutile.
Oui, tout à fait.
Il n'y croyait pas lui-même.
Lui, il n'y croyait pas, mais enfin, il savait quand même que au conclave précédent, celui qui avait élu Jean-Paul Ier, il savait que son nom avait été cité. Donc il était quand même un petit peu inquiet. Parce que, encore une fois, l'Église catholique, c'est pas l'UDF, hein, il faut pas être calife à la place du calife. Personne ne souhaite vraiment devenir pape. Hein, un cardinal raisonnable ne peut pas souhaiter ça. Et donc il avait un peu peur quand même. En revanche, alors, à l'extérieur, ce photographe, comme nous tous les journalistes de l'époque, on ne pensait pas à Wojtyła pour une raison simple, c'est qu'il n'était pas italien. À l'époque, tout le monde pensait que, une fois de plus, depuis 5 siècles, eh ben, l'Église allait se donner un pape italien. Ça a été ça, surtout, la surprise.
Vous citez les deux grands papabili, hein, ceux auxquels tout le monde pensait à l'époque, l'archevêque de Gênes, qui est Siri, et l'archevêque de Florence, Benelli, qui se sont livrés. Alors, personne ne sait ce qui se passe dans un concile, par définition. Vous en donnez des détails extraordinaires. Vous dites que pendant ces 48 heures, il y a eu véritablement des luttes florentines, on pourrait presque le dire, notamment entre ces deux-là, Siri et Benelli.
Oui, alors il ne faut pas non plus exagérer, ça se passe pas.
Si, ils glissent des petits mots, parce qu'en fait, personne, il faut savoir qu'aucun ne peut, même pendant le conclave, annoncer qu'il est candidat.
Voilà.
Donc on discute beaucoup, mais on glisse une feuille de papier, je crois, dans un missel, pour indiquer que Siri est vraiment très réactionnaire, du coup Benelli qui a fait ça espérant profiter, enfin c'est absolument
oui, il faut dire que c'était vrai. Le cardinal Siri était très conservateur et le cardinal Benelli était moins conservateur. Faut pas non plus en faire un progressiste, hein, mais et ce qui s'est passé était tout à fait terrible, parce que au fil des votes, on voyait bien une fracture se dessinait entre la frange conservatrice de l'Église et l'autre frange. Et là, il y avait un risque. Parce que, en effet, les cardinaux se sont dit, il faut arrêter ça, parce que si on choisit soit l'un, soit l'autre, on va finir par avoir un pape qui régnera sur la moitié de l'Église. Et c'est pour ça que, finalement, petit à petit, au fil des votes, on a vu que on oublie ces deux Italiens, Siri et Benelli, et des voix commencent à s'éparpiller ici ou là, et à partir du sixième tour de scrutin, le nom de Wojtyła commence à monter sérieusement. Septième tour, il est quasiment élu, mais il n'atteint pas les trois quarts des voix plus une. Et au huitième tour, il est élu.
Et ça, c'était le 16 octobre 1978. Et à 18h40, donc, le cardinal Felice annonçait le nom du nouveau pape devant des journalistes très surpris, comme l'envoyé spécial de France Inter, François Foucard.
Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
Vous m'entendez ?
Oui, nous vous entendons, vous voulez ?
Écoutez, tout ce que je peux vous dire tout de suite, c'est un étranger, c'est un Polonais. C'est un cardinal polonais, c'est un événement extraordinaire. Pour la première fois depuis 1500 et quelque chose, c'est un non-italien qui vient d'être élu pape.
Et il est relativement jeune, il a 58 ans.
Oui, écoutez, si vous le voulez bien, je vais demander...
Ibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
Voilà, alors il s'appellera également Jean-Paul II.
Et c'était il y a 25 ans, à quelques heures près, Bernard Lecomte, pourquoi le nom de Jean-Paul II ? Est-ce que c'est à cause de Jean-Paul Ier qu'il venait de mourir ?
Un peu, mais pas seulement. C'était surtout pour... Il voulait marquer qu'il s'inscrivait dans une continuité. Jean, c'est Jean XXIII dans son esprit. Paul, c'est Paul VI. Et Jean-Paul, c'est Jean-Paul Ier. Donc il s'inscrit dans la continuité des trois papes précédents.
Et de Vatican II, en fait.
Et de Vatican II, bien sûr.
Alors évidemment, vous nous l'avez dit, à Varsovie, vous annoncez aux Polonais que c'est un Polonais qui est devenu pape, et puis vous envoyez un article à La Croix, mais vous n'êtes pas le seul, hein, La Croix n'était pas sans doute le seul journal à consacrer sa une à l'élection de Jean-Paul II, la revue de presse Stéphanie Duncan.
Eh bien oui, au lendemain de l'élection, tout le monde découvre donc ce nouveau pape, si jeune et surtout polonais, Habemus Papam, et quel pape, s'exclame l'aurore. À Jean-Paul Ier, le pape du sourire et de la fermeté, succède Jean-Paul II, qui sourira peut-être moins, mais dont la foi s'est affermie dans les épreuves et l'extrême climat de chrétienté de la Pologne. Pour Manuel Lucbert, dans Le Monde, le Polonais Jean-Paul II offre à l'Église l'occasion de retrouver son unité en lui permettant de se replonger dans une foi simple, populaire, le modèle catholique polonais étant traditionnel. Traditionnel peut-être, mais surtout, tout le monde le dit, ce choix est audacieux et révèle la vitalité de l'Église catholique. En choisissant un étranger, remarque Le Matin de Paris, et qui plus est un ressortissant des pays de l'Est, les cardinaux ont fait preuve d'une audace dont beaucoup ne les croyaient pas capables. Un saut est fait qui redonne vigueur à la vocation d'universalité de l'Église catholique. Alors Jean d'Ormesson, dans Le Figaro, visiblement ému, parle d'un coup d'audace prodigieux qui, dit-il, donne d'un seul coup une autre dimension à l'Église romaine. Surtout parce que ce pape vient d'un pays communiste, dit-il. C'est un choix de fermeté. Chacun sait qu'en Pologne, plus encore qu'ailleurs, l'Église est indépendante du gouvernement, de l'État et du parti. Jean-François Revel, dans Le Point, parle même à propos de Jean-Paul II d'un Sakharov pontifical. Alors, l'éditorial du Monde se demande d'ailleurs quelle sera la réaction du monde communiste face à l'élection d'un pape qui, je cite, « sait dans sa chair ce qu'il en coûte de se colter avec un État Moloch ». Intéressant là-dessus, l'éditorial de l'Humanité qui voit ou espère voir dans cette élection le signe non pas d'une opposition, mais au contraire d'un rapprochement sous la houlette communiste, bien sûr. Les responsables de la catholicité voient loin, écrit Luma, ils ont senti la montée des damnés de la terre que chante l'international. Par conséquent, conclut Luma, les communistes invitent les chrétiens à agir pour la transformation de la société, pour le socialisme. En Gérard Dupuis, dans Libération, est un des rares à émettre quelques restrictions à ce concert de louanges pour Jean-Paul II. Selon Gérard Dupuis, il y a tout à parier que le nouveau pape continuera à bâtir son église sur la pierre de ses vieux tabous sexuels, quitte à les aménager au goût du jour. Et visionnaire, Gérard Dupuis l'affirme, hein, on est donc en 78, Jean-Paul II sera leader maximo pour longtemps. Alors sur un ton un peu différent, le journal La Croix dit aussi, si Dieu lui prête vie, il sera le pape de l'an 2000.
C'est étonnant, Bernard Lecomte, ces articles, parce qu'il faut rappeler quand même que la veille, ces journalistes ne connaissaient même pas le nom de Karol Wojtyła, et dans ce qu'ils écrivent, quand même, c'était pas mal vu
en effet.
Déjà annoncé qu'il sera peut-être le pape de l'an 2000, ça il fallait le savoir en 78.
Oui, alors il est vrai que ça c'est une image qui va garder, que Jean-Paul II lui-même va porter jusqu'au bout, jusqu'à l'an 2000 justement, hein, c'est lui qui va faire les fêtes du troisième millénaire et le jubilé de l'an 2000. Jean-Paul II, dès son élection, pense à ça. Il en a parlé avec Wyszynski. Dès les premiers jours, il pense à l'an 2000, déjà. Et c'est pas un hasard si, je crois, si la Croix cite cette phrase. Pour le reste, en effet, c'est pas mal vu. Jean-François Revel disant c'est un Sakharov pontifical, c'est pas mal vu, hein, quand on sait la suite.
Alors, ce qu'ils ne savent pas, parce que ça se passe au moment où ils écrivent leurs articles, c'est que dès le début aussi, ce pape surprend d'abord par son comportement. Il se comporte comme aucun pape élu ne s'est jamais comporté, dites-vous, Bernard Lecomte. Dès les premiers jours, d'abord, il surprend les Italiens, parce qu'il parle en italien. Il faut rappeler qu'il est polyglotte, hein. Je crois qu'il parle six langues.
Oui, voilà.
Enfin, dans la sienne.
La sienne. Oui, c'est vrai qu'il surprend les Italiens. C'est important, c'est pas anecdotique, c'est que le pape, rappelons-nous que le pape, il est pape parce qu'il est évêque de Rome. Et en réalité, on élit l'évêque de Rome. Donc, il est naturel que les Romains se disent, oulala, on a élu quelqu'un qui vient de Pologne, dans quelle langue il va nous parler? Et à la stupéfaction de tous les Italiens, Jean-Paul II s'adresse à eux dans un très bon italien, en effet, de même qu'il parle parfaitement le français, comme vous le savez. Il parle très bien l'anglais, il parle correctement l'allemand, et il se débrouille dans presque toutes les langues de l'Est.
Et puis, il va surtout aussi les surprendre, non seulement par son comportement, mais par ses premiers mots prononcés 6 jours après son élection, le jour de la cérémonie d'inauguration de son pontificat, le 22 octobre 1978, sur la place Saint-Pierre.
Non abbiate paura. Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo.
N'ayez pas peur.
Ouvrez
toutes grandes les portes au Christ.
Aprite
et à sa puissance salvatrice.
I confini degli stati.
Ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques ainsi que politiques.
I vasti campi di cultura,
les vastes champs de culture, de civilisation, de développement. N'ayez pas peur.
Non abbiate paura.
N'ayez pas peur, tout le monde se souvient de ce discours, le premier discours officiel de ce pape. Aucun pape, dites-vous Bernard Lecomte, n'avait jamais parlé comme ça. Pourquoi ?
Ben non, en effet, parce que ce n'ayez pas peur dépasse largement les formules compassées d'une église traditionnelle et un petit peu langue de bois, faut bien dire les choses. Hein, lui, n'ayez pas peur, ça s'adresse évidemment aux catholiques, hein, qu'il l'acclame à ce moment-là. Faut pas oublier que l'Église est en crise à cette époque. Hein. L'Église catholique n'a pas encore digéré les conséquences du Concile et pour simplifier le phénomène mai 68. Hein. Cette Église est divisée. C'est une Église du doute. On l'a dit. Et Jean-Paul II arrive. N'ayez pas peur. Et puis il s'adresse au monde. Un monde qui est au bord d'une nouvelle époque scientifique, technologique, compliquée. On parle pas encore à l'époque de mondialisation, mais on y arrive. Et Jean-Paul II, en effet, s'adresse au monde en disant au monde entier. N'ayez pas peur. C'est un langage, en effet, complètement nouveau.
Puis il y a le geste qui accompagne la parole. On l'a peut-être oublié, mais vous rappelez que juste après ce discours, il prend sa crosse en argent, il la brandit sur sa tête comme un chanteur de rock. Ça non plus, on l'avait jamais vu.
Non, et il va nous habituer, en effet, cet ancien comédien, à une maîtrise extraordinaire de la scène, du geste, de la langue, et à un formidable dialogue avec ses publics.
Alors des surprises, il y en aura d'autres, hein, pendant les 25 ans de son pontificat, dont nous n'avons évidemment pas le temps de développer tous les détails. Mais tous les événements aussi dans lesquels il a joué un rôle essentiel, la chute du communisme, le pardon des chrétiens aux juifs, la condamnation de la guerre en Irak notamment, l'ouverture au tiers-monde, des critiques du libéralisme, parce qu'il ne s'est pas contenté de critiquer le régime communiste, il a beaucoup critiqué le libéralisme, mais alors aussi le refus d'accepter quand même l'évolution des mœurs, la contraception, l'ordination des femmes, le mariage des prêtres. C'est un pape qui est difficile à classer, à la fois très progressiste par certains côtés, très conservateur par d'autres, Bernard Lecomte.
Vous savez, je ne suis pas sûr que, en termes, sur une échelle de 2000 ans, et quand on parle d'une institution d'un milliard d'individus, on puisse parler de gauche ou de droite, ou de progressiste ou de conservateur. Je crois que c'est nos mots à nous. C'est quand on commente, quand on regarde ce qui se passe, qu'on emploie ces mots-là. Le pape n'est ni l'un ni l'autre, ou plus exactement, il est les deux. Il est vrai que, sur le plan politique, sur le plan du dialogue interreligieux, sur le plan même d'innovation extraordinaire, rappelez-vous la réunion d'assises, où ce pape, chef de l'Église catholique, invite tous les responsables des autres religions du monde à parler de la paix. Ça s'était jamais vu dans l'histoire. Donc ce pape-là est incontestablement progressiste ou réformiste ou comme on voudra. Il est vrai que sur le plan des mœurs, c'est différent. Il aura été un pape conservateur. Bon, est-ce qu'un pape peut être autre chose que conservateur aussi sur un certain nombre de terrains? Il faut bien faire la part des choses. Sur l'avortement, par exemple, jamais aucun pape ne sera pour l'avortement. L'avortement, c'est clairement dans le dogme, dans la Bible, il y a marqué « tu ne tueras point ». Bon, on n'ira pas au-delà. En revanche, sur le sacerdoce des femmes ou sur le mariage des prêtres, on n'est plus dans le dogme, là, on est dans la tradition. Et cette tradition, Jean-Paul II a décidé de la maintenir. D'autres papes, demain, peuvent peut-être la changer. Sur la morale sexuelle, on parle souvent, quand on parle de Jean-Paul II, surtout nous en France, on dit toujours « oui, mais alors la contraception, etc. » Jean-Paul II a repris l'enseignement de Paul VI. C'est Paul VI hein, qui avait interdit la contraception. Jean-Paul II a dit « je ne touche pas à ça ».
Mais c'est pas seulement la morale sexuelle, Bernard Lecomte. Quand il s'agit, par exemple, d'interdire le préservatif, c'est pas seulement un moyen contraceptif, c'est aussi le moyen d'éviter une maladie qui ravage des pays où les catholiques, d'ailleurs, sont extrêmement nombreux, des pays du tiers-monde. Et ça, c'est quand même grave.
Oui, mais si vous voulez, le pape lui-même, Jean-Paul II lui-même, n'a jamais parlé du préservatif. On lui a fait dire des tas de trucs là-dessus, il n'en a jamais parlé. C'est pas, j'allais dire, c'est pas de son niveau. Lui, il rappelle un idéal. Cet idéal, c'est quoi? C'est le rapport sexuel, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Entre parenthèses, les papes d'avant n'en parlaient pas beaucoup. Hein, c'est le premier à avoir abordé ces questions-là de front. Et un rapport sexuel, eh bien, c'est un don total entre un homme et une femme. Voilà le principe. Et alors, tous les moyens de contraception, chimiques ou prophylactiques, la pilule ou le préservatif, eh ben effectivement, ça retire quelque chose à ce don total. Alors maintenant, il faut admettre que le pape donne le principe et les églises elles-mêmes l'appliquent. Vous savez très bien, Mgr Lustiger en France avait dit assez rapidement, attention, quand entre donner la mort et pas donner la mort, il y a pas, hein, faut choisir très vite de pas la donner. Et donc, si on ne peut pas se contenir, disait le cardinal Lustiger, eh ben mettez. Hein.
Il y a 25 ans, on l'a entendu dans les archives, c'est un pape jeune de 58 ans, très sportif, qui était élu. Et aujourd'hui, c'est un pape très diminué, qui ne le cache pas. Est-ce qu'on peut imaginer une démission du pape, ce qui ne s'est jamais produit, je crois, dans l'histoire?
Si, ça s'est produit. Ça s'est produit en 1294, exactement. Le pape s'appelait Célestin V. C'était un moine qui a été tiré de son monastère pour devenir pape. Et au bout de 6 mois, il a compris que...
Dans le cas présent.
Et dans le cas présent, le droit canon le permet. Simplement, lui, tout simplement, a dit non, je resterai là jusqu'au bout. Dieu m'aidera à rester jusqu'au bout. Il a même eu cette phrase, à qui voulez-vous que je donne ma démission?
Merci Bernard Lecomte. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie tout à fait passionnante et très complète de Jean-Paul II, qui vient d'être publié chez Gallimard, et puis évidemment beaucoup de livres en ce 25e anniversaire sur Jean-Paul II. Ce jour-là, Jean-Paul II de Joseph Vendry, c'est édité chez Perrin et Mam. Pie XII, alors Pie XII, c'est pas Jean-Paul II, mais Pie XII, qui est un de ses prédécesseurs, de Philippe Chenot, publié au Cerf, ainsi qu'un dossier spécial du Figaro qui est sorti aujourd'hui sur Jean-Paul II. Ce soir, sur France 5, vous pourrez voir un documentaire sur Jean-Paul II de Douane Allette, diffusé à 22h50. Et je vous signale enfin que le Salon du Livre d'Histoire de Blois débute aujourd'hui et dure jusqu'au 19 octobre. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur France.